hors champ. Hors champ, bonsoir à toutes et à tous. Hors champ ce soir en compagnie de David Grossman. David Grossman, vous êtes né à Jérusalem. Votre père, je crois, venait de Galicie. Pourquoi était-il parti ? À cause de l'antisémitisme ?
Yes, he was 6 7 years old.
Oui, il avait 6 ans, 7 ans. Il était orphelin, sans père. Et un jour, un policier polonais a traité sa mère, ma grand-mère, d'une façon inappropriée. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, probablement il lui a dit quelque chose. Et ma grand-mère, qui n'avait quasiment jamais quitté son shtetl, son village juif, a pris mon père, sa sœur, ils ont pris le bus, l'autobus pour la première fois de leur vie. Ils sont allés jusqu'à un bateau et ont pris le bateau pour aller en Palestine.
Et donc, vous faites partie de cette génération qui, par définition, n'avait pas connu l'Holocauste et qui avait appris la signification de l'Holocauste à l'intérieur du cercle familial ou par les cérémonies qu'on fait en Israël une fois par an pour rappeler l'Holocauste.
Yes, since my grandmother came with my father to Israel.
Puisque ma grand-mère est venue avec mon père en Israël, ils ont été épargnés par la Shoah, par cette expérience, de façon miraculeuse pour nous tous. Mais bien sûr, moi je suis né en 1954, et l'ombre de la Shoah était encore extrêmement prégnante, forte.
Et
dans les rues de mon petit voisinage, mon petit quartier à Jérusalem, on voyait encore passer les gens avec les nombres, les chiffres tatoués sur leur avant-bras. Et ces gens-là criaient la nuit dans leurs rêves, disaient des mots bizarres en allemand, en polonais, en yiddish. On ne savait pas ce qui s'était passé. On sentait que quelque chose de terrible, de l'ordre de l'indicible s'était passé. Parce que les adultes ne voulaient pas en parler. Parfois, lorsque je rentrais dans la pièce, les conversations soudain s'arrêtaient. Je pouvais saisir des fragments d'une phrase. Quelqu'un a dit « Il a perdu sa femme, son enfant à Treblinka. » Ils attendent toujours pour trouver, retrouver leurs enfants. Des choses comme ça qui étaient tellement horribles. Il n'y avait aucune place dans notre esprit pour cela. Je vais vous raconter autre chose. À cette époque-là, dans les années 50, il y avait encore beaucoup d'Israéliens qui recherchaient leurs êtres chers qui avaient disparu lors de la Shoah. Il y avait un programme de radio dédié entre 13h20 et 13h30, 10 minutes chaque jour à la radio. Il y avait un speaker qui lisait les listes de noms des gens qui se cherchaient. Sarah, fille de Fischel et Myriam de Bialystok recherchent ses parents. Toute cette lamentation a accompagné nos repas tout au long de notre enfance. C'était quelque chose de très présent, mais non dit, jusqu'au procès Eichmann à la fin de 1961. Et alors là, soudain, tous les faits se sont déversés dans notre vie, toutes les atrocités.
Donc, comme le dit Hannah Arendt, le procès Eichmann a été véritablement une révélation pour le peuple israélien et la vie s'est arrêtée pour pouvoir écouter les dépositions des survivants de l'Holocauste, alors que, c'est la thèse de Hannah Arendt, alors que Ben Gurion, avant ce procès Eichmann, qu'il a voulu cependant, avait en quelque sorte effacé un peu de l'histoire collectif du peuple d'Israël, l'Holocauste.
Ce qui était l'atmosphère en Israël au cours des premières années, c'est qu'on avait besoin de toutes nos forces pour sauter vers l'avant, vers l'avenir, pour nous recréer et construire notre économie, notre armée et la nouvelle génération. Et l'expérience de la Shoah était tellement insupportable, tellement humiliante pour nous, que la plupart des gens, peut-être Ben Gurion aussi, voulaient tourner le dos à cette expérience, tourner le dos aux Juifs humiliés, aux Juifs persécutés, aux Juifs condamnés à être victimes. Ce qui est intéressant, c'est que les Juifs qui sont venus, qui ont survécu à la Shoah, qui sont venus en Israël, ont préféré aussi ne pas parler de ce qui s'était passé là-bas. Ils se sentaient peut-être coupables parce que les leurs et les autres avaient péri lors de la Shoah. Mais ils sentaient aussi que par leur propre présence, ils portaient une mémoire que la plupart des Israéliens ne voulaient pas connaître. Je me souviens, même en tant qu'enfant, nous étions programmés pour penser, mais comment cela a pu se produire qu'ils soient allés au massacre sans se battre, parce que le code de conduite des Israéliens a été depuis les premiers jours de l'État, et même avant qu'Israël soit créé en tant qu'État, de rendre coup pour coup, immédiatement rendre les coups. C'est quelque chose de très enraciné. Ce n'est pas une façon militaire de se conduire, mais c'est une tentative de changer la façon dont nous réagissons aux agressions extérieures dont nous avons souffert tout au long de notre histoire. Je me souviens de façon très claire lorsque j'ai pour la première fois compris ce qui s'est passé pendant la Shoah. C'est autour de cet âge-là, je pense que j'avais 8 ans. Soudain, il m'était apparu que ce chiffre de 6 millions de gens, ce qui leur avait été fait, la façon dont ils avaient souffert, et c'est devenu quelque chose de très personnel. Une de mes premières questions a été, mais où était notre aviation? Comment se fait-il qu'ils n'aient pas bombardé ces villes-là? J'étais un enfant typique d'Israël. Je ne pouvais pas penser à Israël sans une armée pour nous défendre.
Quand je vous écoute, David Grossman, j'ai l'impression de relire certaines pages de votre livre qui s'intitule « Voir ci-dessous, amour ». Car ce livre est divisé en quatre parties, et dans la première partie, il y a un enfant qui avait à peu près le même âge que vous à cette période où vous avez eu cette révélation de la Shoah, qui s'appelle Momik, et qui voit débarquer dans son univers familial un très vieux monsieur, dont on lui dit que c'est son grand-oncle. Et c'est un personnage qui erre dans les rues de Jérusalem, qui a oublié son identité, qui est un survivant des camps de concentration, qui a été transféré donc sur le territoire israélien. Et puis tout d'un coup, il recouvre une partie de sa mémoire, il se souvient d'un nom. Du coup, les forces de police amènent ce très vieux monsieur dans l'univers familial de ce petit garçon. Et on s'aperçoit à travers votre écriture que personne ne veut s'intéresser à ce vieux monsieur, que les parents, ça les dérange de voir ce vieux monsieur qui débarque. Seul le petit garçon va nouer un dialogue avec ce vieux monsieur. Pourquoi ?
Peut-être parce que j'étais un tel enfant, toujours intéressé par les personnes âgées. Je les trouvais tellement intéressantes, ces personnes, tellement pleines d'histoires à raconter. Et de mes grands-mères, de mes grands-pères, j'ai entendu tellement d'enfants, tellement d'histoires quand j'étais un enfant. Donc, si vous voulez, j'étais programmé pour ça. Mais il y avait autre chose. Momik est un enfant qui est un peu dans la marge. Il est un peu rejeté, il est un peu différent des autres enfants. Et de même avec Anshel Wasserman. Ils ont créé donc ce lien de ceux qui étaient à la marge, de ceux qui étaient rejetés. Mais il y a autre chose. Monique est le fils unique de deux survivants de la
Shoah.
Mais ils n'en parlaient jamais de la Shoah.
Et Monique
est tourmentée par ce silence. Il sent que quelque chose de terrible leur est arrivé. Et il veut le décoder. Si vous voulez, c'est un garçon un petit peu du côté scientifique, du côté détective. Il veut, comme beaucoup d'enfants, il cherche les preuves pour avoir une image complète de ce qui s'est passé là-bas, de ce qui était tellement terrible que personne ne veut en parler. Par exemple, les adultes autour de lui parlent de la bête nazie. C'est ainsi que l'on parlait du nazisme dans les années 50. Mais aussi aujourd'hui. Et Momik entend de toutes les personnes parler de la bête nazie. Et il commence à croire qu'il y avait un monstre, une sorte de dinosaure qui dirigeait les gens là-bas. Parce qu'ils disent toujours « là-bas ». Et ils pensent qu'il y avait ce pays qui s'appelait « là-bas ». Mais jamais aucun adulte ne veut lui expliquer ce qu'était là-bas et ce qu'était ce monstre qui tourmentait ses parents et leurs amis et leur famille là-bas. Que leur faisait-il, ce monstre?
Suddenly,
et là, finalement,
Bella. Bella is the owner of the grocery store.
Bella, c'est la propriétaire du magasin de confiserie. Elle aussi, elle a un nombre tatoué sur l'avant-bras. Et elle pose la question à Bella. Qui était la bête nazie? C'est quoi la bête nazie?
Et
elle ne voudrait pas lui dire parce qu'il a seulement 8 ans, il est naïf. Elle ne veut pas le polluer avec cette connaissance pour qu'il sache de quoi les gens sont capables. Mais Momik est un tel enfant que lorsqu'il est rejeté, eh ben, il va encore plus de l'avant. Et il lui met la pression pour savoir ce qu'était la bête nazie. Et finalement, Bella pousse un soupir, un krechtz, comme ça, avec toutes les lamentations juives en arrière-plan. Elle lui dit que la bête nazie peut sortir de n'importe quelle créature, de n'importe quel animal, si elle est nourrie correctement.
Of course, she says it ironically.
Bien sûr, elle le dit de façon ironique, mais Momik est un enfant sérieux. Et il décide donc qu'il va essayer d'avoir autour de lui des tas d'animaux. Donc il collectionne des animaux, il les met en cage sous l'appartement de ses parents. Il met un chat blessé et un corbeau, etc. Il les met dans des petites cages.
Et
il souhaite qu'un jour, la bête nazie sorte de ces animaux. Et pour qu'il puisse finalement la dresser et changer l'histoire. Mais évidemment, la bête ne sort jamais. Il comprend finalement, il a cette intuition que tout, exactement comme sa tortue soudain se réveille lorsqu'elle sent les épluchures de concombre, Momik doit arriver à donner à la bête la nourriture qu'elle aime. Et la nourriture qu'elle aime, c'est le juif. Et bien pour ça, il doit apprendre ce que ça signifie d'être juif. Il ne sait pas qu'il est juif. Il sait qu'il est israélien, mais c'est quoi un juif? Donc il va dans les bibliothèques, il cherche dans les livres de l'époque de la Shoah. Et il apprend comment un juif se comporte, comment il lève les bras, comment il porte sa casquette. Et il devient de plus en plus juif. Il crée une enclave juive au sein de la réalité israélienne. Et à l'intérieur de tout ça, arrive son grand-père, Anshel Wasserman.
Et Momik
tente de comprendre tous les soupirs proférés par Anshel. Il tente de le déchiffrer. Par exemple, le grand-père a un nombre tatoué sur son avant-bras, qu'on l'a tatoué à Auschwitz. Et Momik pense que c'est un code militaire. Par exemple, s'il remet les chiffres dans la bonne position, s'il change les nombres sur l'avant-bras du grand-père, le grand-père va s'ouvrir comme un coffre-fort s'ouvre et qu'il y aura un nouveau grand-père qui en sortira, qui sera joyeux et bavard et raisonnable et qui jouera avec lui. Tout ça est un mélange
all the contents that
de tous les contenus qui prévalaient à l'époque de
and
mon enfance. Et c'est aussi une tentative de comprendre le monde juif de la Shoah avec des yeux d'Israéliens, mais aussi dans le sens inverse, montrer comment Israël était vu par les yeux d'un enfant qui avait été frappé par la mémoire de la Shoah.
Comment avez-vous construit la structure de Femme, fille en annonce, David Grossman? Parce qu'on suit les pas de Hora, votre héroïne, qui donc fuit la possibilité de l'annonce de la mort de son propre fils. Son propre fils qui, d'ailleurs, au début du bouquin, vient d'être délivré de ses obligations militaires et arrive à la maison pour reprendre sa vie normale quand il entend à la radio qu'il va y avoir la guerre au Liban. Et il dit à sa mère, je vais repartir dans mon unité parce que j'ai appris à faire la guerre, j'ai singé la guerre, j'ai jamais fait la guerre, là il y a la guerre et j'y retourne. C'est quand même dingue ça, non?
Yeah. What can I say?
Ben oui, que puis-je dire?
You know, people ask me,
les gens me posent la question,
is it reasonable that Hora runs
est-il raisonnable
from home?
And I said, is it reasonable that people Hora fui la maison? Mais je réponds, est-ce raisonnable que les gens se rencontrent dans un lieu précis pour tuer et être tués? Mais lorsqu'on a 18 ans, on est manipulable facilement. C'est facile de vous manipuler, de vous programmer.
Et
j'ai appris autre chose. Vous savez, moi aussi, j'ai servi à l'armée israélienne. J'avais 18 ans, j'ai servi 4 ans.
Et
puis j'ai fait 25 ans de réserve chaque année.
And my three children were
et mes trois enfants étaient et sont à l'armée. J'ai une fille qui a 19 ans, elle est sous les drapeaux.
Et
si j'essaie de sortir de cette situation dans laquelle je suis né et que je la considère de loin, je peux vous dire, les jeunes vont à l'armée pour se battre, non pas principalement parce qu'ils comprennent toutes les raisons de se battre, ou pas simplement par patriotisme, mais la chose fondamentale, c'est leur loyauté envers leurs amis. C'est cette camaraderie, cette idée que moi je ferai tout, je vais même sacrifier ma vie pour sauver mes camarades parce qu'ils feraient de même pour moi. C'est la façon dont la mentalité d'une armée est imprimée au sein de chaque soldat, jeune soldat. Et malheureusement c'est très efficace.
Vous êtes un homme, David Grossman?
Yes.
Alors comment faites-vous pour savoir décrire de l'intérieur l'âme, le cœur, le corps, le sexe, les états d'esprit, la sensibilité, les crises de joie, les crises de larmes, les égarements, la loyauté et la sincérité de Hora, votre héroïne?
Yes, I am a man, but,
oui, je suis un homme,
I think like all of us,
mais comme chacun d'entre nous, il y a tellement d'autres options ouvertes. D'ordinaire, on ne se permet pas de connaître toutes ces options parce que ça nous menace. Et en fait, on se rétrécit à une seule ligne, à un seul narratif de notre personnalité. Étant un écrivain, cela me permet d'être tellement d'autres. C'est un tel don si merveilleux. Et pour écrire, pour décrire Hora, ce qu'il fallait faire, c'est simplement me rendre à la Hora au sein de moi-même. Il fallait arrêter de résister à Hora. Ça ne se produit pas rapidement, ça m'a pris, allez, un ou deux ans pour être capable de me laisser être elle, complètement, et de regarder la réalité de la façon dont une femme la verrait, et de faire l'expérience des choses, et de rechercher ces nuances que les hommes peuvent voir, mais qu'ils ignorent d'ordinaire. Et en général, je crois que de tous les livres que j'ai écrits, il y a cinq ou six personnages qui restent en moi.
Je
suis très mince, mais il y a toute une équipe dans moi, qui sont très très actifs. Et parfois, ils n'ont pas besoin de moi, vous savez. Je peux voir Momik de Warsitsu, Amour, qui parle à Avram, ou tel personnage d'une femme fuyant l'annonce, qui parle avec Yair de « Tu seras mon couteau ». C'est une façon d'être au monde que je n'aurais pas connu autrefois si je n'avais pas été écrivain. D'être un enfant, d'être quelqu'un de très âgé, d'être une femme, d'être fou, d'être israélien, d'être palestinien. Il y a tellement de façons d'être au monde. Et souvent, nous nous interdisons cette richesse. Nous avons peur de cette richesse. Mais pour moi, le cœur de l'acte d'écriture, c'est d'essayer de comprendre la réalité à travers les yeux de quelqu'un d'autre, de comprendre l'autre de l'intérieur, pas d'imposer à cet autre ma façon d'être, ma façon d'être un homme, un père, un Israélien, mais de se rendre complètement, de se soumettre à leur constitution interne.
Il y a une page à la fin de votre livre où vous expliquez que votre fils est mort au combat pendant l'écriture du livre, qu'avant, au moment où vous aviez déjà engagé le processus d'écriture, cela faisait déjà 4 ans, vous en parliez beaucoup avec lui. Et puis que vous avez continué le livre après l'annonce. On connaît le discours qui a été publié dans les journaux français que vous avez prononcé sur la tombe de votre fils. Ce qui est incroyable dans votre parcours, David Grossman, c'est qu'il y a des livres qui sont de véritables succès. Et encore une fois, avec Un cheval rentre dans un bar, on assiste déjà à un engouement. Et puis il y en a d'autres qui, à mes yeux, sont tout aussi importants. Comme l'avant-dernier, Tombé hors du temps, dont on parle peu. Pourquoi, à votre avis?
You have to ask the audience, not
me. Faut demander au lecteur, pas à moi.
I write in the only way I know.
Moi, j'écris de la seule manière que je peux écrire.
Every book is written
chaque livre est écrit selon la mélodie intérieure de l'histoire qu'il raconte. C'est toujours un problème de trouver le bon style qui va faire ressortir l'essence de l'histoire. Certains des styles que j'utilise sont probablement plus accessibles que d'autres, et d'autres moins.
Justement, le style, à propos de votre style, vous oscillez sans arrêt entre la poésie et la pureté de la langue. Et dans Tomber hors du temps, vous introduisez un dispositif de narration qui nous permet finalement, nous, vos lecteurs, de continuer Femme fuyant l'annonce, mais d'une autre façon. Est-ce que le style est à l'origine de la naissance d'un livre ?
D'une
certaine manière, le style me permet de raconter l'histoire. Je vais vous dire de quoi il s'agit. L'idée d'un cheval entre dans un bar, cette histoire d'enfant qui doit faire un voyage pour assister à l'enterrement d'un de ses parents, il ne le sait pas si c'est son père ou si c'est sa mère qui sont morts. Cette idée m'est venue depuis le début des années 90, ça fait 25 ans. Et chaque fois que j'ai terminé l'écriture d'un roman ou un livre documentaire, je me suis dit, voilà, je m'y mets, je vais écrire cette histoire. Parce que ça ne me sort pas de la tête, cette histoire, cette situation tellement difficile. On envoie un enfant sur une voie tellement difficile sans lui dire qui en fait est mort. Et chaque fois, j'ai tenté de l'écrire, et ça n'allait pas, je n'avais pas la mélodie qu'il fallait, jusqu'à ce que soudain, un matin, l'idée est venue, et je ne peux même pas vous dire comment cette idée est née, parce que, vous savez, c'est une mutation soudaine dans la tête. Et dès la seconde où je me suis dit que j'allais raconter cette histoire par les yeux d'un comédien de stand-up. Raconter cette histoire tellement intime face à un public étranger et ce contact entre l'intimité et l'étrangeté de l'autre, ça m'a donné vraiment comme une décharge électrique. Et j'ai su que ça, c'était la bonne façon de le faire. C'est comme ça qu'il faut la raconter. Et à partir de ce moment-là, l'histoire a coulé de moi.
Mais dans ce dernier livre, vous pulvérisez l'idée même du narrateur, parce que quand on ouvre ce livre, on ne sait pas où on doit se situer, qui on écoute. C'est ça qui est extraordinaire dans ce livre, en dehors du contenu qui est très émouvant, c'est la découverte que vous faites, stylistiquement parlant. Il y a ce comédien qui s'exprime, mais le narrateur, ce n'est pas lui. Et pourtant, c'est lui qu'on écoute. Donc, il y a deux histoires parallèles. Où est le jeu, là? Le jeu J-E et le jeu de l'écriture J-E-U, David Grossman.
C'est justement ça, c'est que le moi passe constamment du comédien au regard du juge qui se trouve dans la salle. Parfois, il faut lire quelques mots dans la phrase jusqu'à ce que l'on comprenne qui les prononce. Est-ce que c'est le juge ou est-ce que c'est Dovalet? Mais l'ambiguïté, le manque de clarté qu'il y a là, permet également au lecteur soudain de se mouvoir plus librement entre les divers points de vue. Et je pense, enfin j'espère en tout cas, parce que je voulais que ça se produise ainsi, que cela crée une sorte de mouvement de l'âme du lecteur. Même au début, il peut haïr Dovalet, haïr sa grossièreté, son agressivité. Et puis soudain, il change de point de vue. Il commence à comprendre pourquoi Dovalet est ainsi, que lui est-elle arrivée, qui le fait être ainsi. Et puis, il change de point de vue, et puis il prend le point de vue du juge, celui qui était ami d'enfance de Dovalet. Et puis il voit que le juge, en fait, lui aussi, il est un peu accusé dans ce livre. Et c'est peut-être la chose que je cherche sans cesse dans l'écriture. Arriver à un point où, en chacun d'entre nous, il y a tellement d'autres possibilités que nous ne sommes pas prisonniers d'un seul point de vue. Parce que si vous êtes prisonnier d'un seul point de vue sur le monde, vous devenez quelqu'un d'hermétique. Vous n'êtes plus dans un dialogue avec le monde. Et alors là, bien sûr, il est beaucoup plus simple de défendre les positions d'autres, de mépriser certains autres. Mais en fait, on se cache du point de vue que on aurait pu être quelqu'un d'autre, on aurait pu se comporter comme les autres.
Il y a trois personnages principaux, finalement, dans Un cheval rentre dans un bar. Il y a le juge qui a convoqué donc... le comédien, le mauvais comédien, entre guillemets, Dovalet. Et puis, il y a le public. Et ce public, c'est une communauté. Ça se passe dans un endroit un peu miteux, de bord de mer, avec des gens qui, manifestement, veulent passer un bon moment, mais veulent pas réfléchir. Ce public, il est aussi constitué de différentes communautés. Et pourquoi, à l'intérieur de votre écriture, David Grossman, vous distinguez dans cette communauté du public une personne, je pense à cette vieille dame, une personne avec qui le lien va se tisser avec le comédien. Comment et pourquoi l'avez-vous imaginé, cette dame?
Vous parlez de la petite naine?
D'accord.
Tout d'abord, un public... Ce n'est pas simplement des anonymes sans visage, sans personnalité. À chacun, il y a quelque chose qui lui appartient en propre, quelque chose de vraiment individuel.
Et
ce moment m'attire toujours où des individus sont prêts à commencer à devenir un public. Je voudrais toujours voir ce à quoi on renonce, chacun d'entre nous, ce qu'il cache de soi-même pour faire partie d'un public anonyme, d'un collectif. Donc, cette petite femme, qui est une marginale sur le plan mental, peut-être aussi sur le plan de son comportement, c'est un peu comme une petite fille. Elle a rencontré Dovale quand tous deux étaient enfants.
Et comme
tout enfant, elle n'arrive pas à comprendre les blagues.
Vous savez,
les blagues, c'est des histoires d'adultes. Les petits enfants ne comprennent pas les blagues. Je me souviens de moi-même, en tant que petit enfant, quand on racontait une blague à côté de moi. Dans chaque blague, il y a quelqu'un que l'on trompe, quelqu'un que l'on trahit, quelqu'un dont on rit. Et tous les gens autour de moi rigolaient. Et moi, j'étais là. Et moi, c'était douloureux pour moi. Mais pourquoi vous rigolez? Il y avait quelque chose de terrible qui s'était produit là. Et cette petite femme, elle est encore à ce stade-là. Elle écoute les blagues de Dovale, les blagues grossières, les blagues agressives, les drôles et les pas drôles. Elle n'arrive pas à en croire ses yeux. Et puis lui la regarde et dit, mais quoi? Mes blagues ne te font pas rigoler, pourquoi tu rigoles pas? Ça l'énerve. Et elle le regarde et lui dit, mais t'étais un bon petit garçon.
Et soudain,
elle lui rappelle, avec des mots très simples, très naïfs, mais t'étais un bon petit garçon. Elle lui rappelle ce qu'il était avant qu'il ne se déforme et ne revête cette armure d'agressivité et de vulgarité. Et au moment où il entend ces mots, cette petite phrase, il s'ouvre comme un rocher se fissure quand on frappe au bon endroit. Et à partir de cet instant-là, jaillit de lui, disons, un autre homme, l'homme véritable qui était en lui. L'homme que Dovale a repoussé, a nié en soi-même pendant plus de 40 ans. L'homme plus sensible, plus que l'on peut toucher plus facilement, le plus intime. C'est vraiment le tournant de tout le roman, de toute l'histoire. Il me semble que ce regard de la petite femme, soudain, lui découvre à quel point il est corrompu, à quel point il s'est éloigné de l'homme qu'il était véritablement et qu'il aurait pu être.
Elle est naine, Dovale est tout petit. Et d'ailleurs, il est si petit que ses camarades de classe dans son enfance se moquent sans arrêt de lui et va trouver un moyen pour ne pas se faire remarquer, c'est de marcher sur les mains, ce qui est quand même un acte un peu singulier. Est-ce que chez vous, David Grossman, la difformité physique est indicative d'une fissure de l'être, justement ?
C'est
pas nouveau si je dis que le corps, c'est le destin. Chacun apprend comment vivre avec son corps de la façon dont il lutte avec son corps. J'écris beaucoup sur les relations difficiles entre les gens et leur corps. Il me semble toujours que c'est une partie d'un processus d'évolution qui n'est pas terminé. C'est le fait qu'on s'habitue correctement à son corps. Parce que j'étais un enfant très petit sur le plan physique. Je m'identifie toujours avec des héros de ce genre qui n'ont pas grandi comme Aaron, comme dans le livre de la grammaire intérieure,
Momik,
dans voir ci-dessous amour.
Et
ici aussi avec Dovale.
Mais
pour lui, j'espère que j'ai trouvé une voie pour qu'il puisse se libérer de son corps, du problème de son corps, du fait qu'il marche sur les mains. Il brise toutes les règles. Tout d'abord, les enfants le giflaient sans cesse.
והוא אומר, כשאתה הולך על הידיים,
מה כאן אתה מרש שור למען? הוא ne peut pas te gifler? On ne sait pas où est ton visage? Alors quoi, il faut se baisser jusque par terre et lui donner une baffe? Non.
Mais
il y a encore quelque chose, parce que quand on marche sur les mains, la réalité, elle est inversée soudain. On voit toute chose selon un angle différent. Et puis là aussi, on est beaucoup plus libre. On devient un homme libre. On n'est pas lié aux règles naturelles du comportement entre les gens. Vous vous souvenez qu'après que son père autoritaire, dur, a découvert qu'il marchait sur les mains, il lui a interdit à son fils de marcher sur les mains. Parce que comme tout dictateur, ce père a compris qu'en marchant sur les mains, il y avait quelque chose de clandestin, de révolutionnaire. Et donc Dovale, qui n'avait pas le choix, a changé ses moyens de lutte. Contre le quotidien, l'isolement, la médiocrité. Il a commencé à jouer avec des gens, il a commencé à jouer aux échecs, sans qu'il le sache, bien entendu. Il était dans la rue, il était à la fois la tour, le cheval, le pion. Ils ne savaient pas, ces gens qu'ils rencontraient dans la rue, qu'ils jouaient aux échecs avec lui. Mais voilà, ils bougeaient, ils se tournaient avec beaucoup de souplesse. Et en fait, c'est ça la souplesse de Dovale, sa capacité de changer de point de vue. Parfois, ce changement de point de vue, c'est la seule liberté qu'est un homme que l'on tente de transformer en victime, comme on l'a fait avec Dovale.
Dans chacun de vos bouquins, David Grossman, vous suspendez le temps. Quand on ouvre vos livres, on ne peut plus rien faire d'autre. Dans celui-là aussi. Donc là, il y a une temporalité bien précise, puisque c'est une soirée dans un théâtre, café-théâtre un peu miteux, où donc un comédien un peu ringard convoque son ami d'enfance qui est juge. Il le convoque, le juge vient, sans savoir pourquoi. Et à la fin, on ne saura pas, nous lecteurs, pourquoi, finalement. Il y a toujours des énigmes à la fin de vos livres. Donc on attend le suivant.
C'est une bonne chose. Les livres ne doivent pas avoir une fin absolue. C'est comme la vie. Toute chose qui se produit n'est qu'une prémisse d'autre chose qui va changer. Et je sens aussi que chacun de mes livres n'aurait pas pu s'écrire sans le livre précédent, qui m'a préparé au livre qui vient. Celui qui veut trouver une fin, il va voir fin. Bon, bien sûr, la dernière séance de Dovale, c'est clair, il n'aura plus de contrat. Mais soudain, ce Dovale et le juge, qui ne se sont pas vus depuis 43 ans, qui se sont quittés parce que, en fait, le juge a trahi son meilleur ami, Dovale. Soudain, il se crée un lien entre eux. Et ils rentrent ensemble à la maison. En fait, le juge va ramener Dovale à la maison. Et il est clair que leur amitié va reprendre. Et encore une autre chose qui est claire, c'était la première fois que Dovale a raconté cette histoire extrêmement dure sur son voyage vers l'enterrement d'un de ses parents. Et soudain, il aurait pu... Voilà, il avait un regret, une nostalgie de ses parents. Soudain, il s'est permis d'avoir un sentiment de culpabilité. Parce que parfois, on ressent un sentiment de culpabilité sur une chose que nous avons faite, mais ce sentiment de culpabilité nous empêche de ressentir beaucoup d'autres sentiments qui sont liés à la situation en question. C'est un impôt que l'on paye pour ne pas sentir d'autres choses beaucoup plus profondes et beaucoup plus douloureuses.
ודובלה פתאום היה
ודובלה,
בהופעה שלו הוא סודן, עשה מסע של רגש האשמה
דן שלו, דן סון ספקטקל
והפעילה מאחוריו מציאות שלמה
de massage de son sentiment de culpabilité, il a découvert des choses beaucoup plus profondes, beaucoup plus larges, beaucoup plus que ce sentiment de culpabilité.
כך שכן יש דברים שהגיעו אל איזשהו מיצוי בסיפור.
Il y a des choses qui ont une finalité dans ce livre. Une utilité.
היה שם עוד דבר, הייתה שם אישה גבוהה.
Mais il y avait aussi une autre femme, une femme grande, belle. Avec des cheveux argentés, qui était dans le public. Et pendant toute l'histoire, elle a suivi ce que faisait le juge, elle regardait le juge. Le juge qui a perdu sa femme, 3 ans auparavant, sa femme aimée,
il
est devenu seul, amer. Et soudain, il y a une possibilité qu'après la fin du livre, quelqu'un l'attendra, quelqu'une l'attendra. Ça me rappelle Femme fuyant l'annonce.
Il y a
quelqu'un qui, un pédiatre qui se promène dans le Galil comme Ora et Abraham.
Et
petit à petit, il y a des petits liens très ténus qui se lient entre cette femme et cet homme. Elle trouve son cahier, il se rencontre à nouveau à une étape. Et on m'a posé la question plusieurs fois, mais quelle était l'utilité de ce type? C'est pas quelqu'un d'important dans l'histoire. Et j'ai dit, je savais qu'après la fin du livre, Ora resterait seule. Nous ne savons pas si son fils reviendra ou pas de la guerre. Son mari l'a abandonné. Avram, qui marche avec elle tout au long de cette route sur le chemin d'Israël, il a une compagne, il a quelqu'un. Je ne pouvais pas supporter l'idée qu'une fois le livre fini, Ora resterait seule. Et j'ai senti que j'étais obligé de lui arranger quelque chose, lui trouver quelqu'un qu'il rencontrerait après la fin du livre.
Et vous, vous êtes qui dans cette histoire? Vous êtes la naine, vous êtes Dovalet, vous êtes le juge?
Je suis tout le monde.
Peut-être la dame argentée, aux cheveux argentés.
Je pense que je suis quasiment tous. Tous ces personnages. Tout personnage que je décris, j'essaie de voir en quoi elle m'est pertinente, ce qu'elle me raconte, cette personne. En quoi moi et ce personnage sont semblables. Jusqu'à quel point j'aurais pu être ce personnage. Donc, la réponse est tous, mais le plus, évidemment, c'est Dovalet. Vous ne pouvez pas savoir à quel point il est différent de moi. Il m'est autre. Mais, en fin de compte, j'ai découvert que je suis très proche de lui. Ça m'a été très très dur de conclure ce livre, beaucoup plus que les livres précédents. Parce que je me suis tellement habitué à lui. Et ça m'a été difficile avec lui, parce que c'est une personne très difficile. C'est un caractère agressif, vulgaire, comme je l'ai dit. Et peu à peu, j'ai vu que en fait, j'aurais pu être lui. Dans d'autres circonstances, j'aurais pu être lui.
Merci infiniment. Et je suis sûre que vous savez marcher sur les mains.
Merci beaucoup.
Les romans de David Grossman sont disponibles en livre de poche. Le dernier livre, intitulé donc « Un cheval entre dans un bar », est paru donc cet automne aux éditions du Seuil. Merci à Michel Zlotowski, qui était interprète de l'entretien. Merci aussi à Yvan Turc, Corinne Amar, Élodie Royer, Julien Rosa, Anne Kobilac. Vous écoutez France Culture. Bonne fin de soirée.